Louis-Frédéric Rouquette, Le Grand Silence Blanc. Chapitre 3. La suprême sagesse ou le secret du bonheur. Si vous vous ennuyez dans le Yukon et que vous redescendiez à la côte vers la Chilcoot Pass, n'allez jamais du côté des îles de l'Amirauté. Et si par hasard le démon des voyages vous pousse, ne traversez pas le chenal et n'entrez jamais dans l'île Baranoff. Où c'est? Au bout de la terre, naturellement. Pas au bout, j'exagère, mais vers le 57e degré de latitude nord. À l'ouest de l'île, si votre mauvaise chance vous amène là, vous dénicherez une ville qui porte le nom des Indiens indigènes, Sitka. Les Russes essayèrent bien, lorsqu'ils la fondèrent, de lui donner le nom de Novo-Arkhangelsk. Mais Novo-Arkhangelsk, c'était trop difficile à prononcer. On a adopté Sitka. Sitka, c'est un nom civilisé. A-t-on idée de ces Russes? Mais ce n'est pas la question. Quand je dis dénicher la ville, je dis bien dénicher. Lorsque vous venez par la mer, vous ne voyez rien. Des flots, des écueils masquent la cité. Vous n'apercevez à l'horizon que le mont Edgecumbe, debout comme une gigantesque sentinelle, et la base occidentale du volcan Vestoria. Lorsque vous avez doublé l'île japonaise et suivi un long chenal tortueux dans le fond, apparaît la crique de Sitka et la ville en amphithéâtre. Le mot est grand, la chose petite. Voyez d'ici un amphithéâtre de 500 à 600 méchantes cabanes de planches ajustées ou de rondins de sapin. Une église qui tient du minaret et de l'isba autour de laquelle se groupent les maisons. Tel est Sitka. Mais que vous importe ces détails? Vous n'irez jamais là-bas, gentlemen. Heureusement pour vous. Moi, j'ai voulu voir. J'ai traîné mon ennui par les rues de la ville. Par les rues, c'est une façon de parler. Dans les bars, est plus exact. Or, un soir, j'étais accoudé à la balustrade en bois qui domine de 15 pieds la grande salle où l'on danse, au Norzern, un fameux bar entre nous. Dans le fond, l'orchestre représenté par un orgue mécanique. À droite, le comptoir où trônait Master John Sullivan, une épaisse brute qui, entre deux rasades, glapissait. « Allons, garçons, choisissez vos cavalières. 50 cents le tour. » Ici, ça ne coûte que 50 sous. À Sagway, à Dia, à Dawson, la polka ou la valse se paye 1 $. Mais à Sitka, il y a plus de marchandises que d'acheteurs. La loi de l'offre et de la demande joue. L'offre dépasse la demande. Alors le produit est en baisse. Les dancing girls de Sitka? Pfft, la même chose que celle de là-haut. Un peu plus fripée peut-être, parce que plus misérable. Dieu les garde tout de même. Je n'aime pas tourner en rond ou piétiner sur place, même lorsque cela ne coûte que 50 sous. Ce soir-là, de nombreuses dancing girls étaient inoccupées faute de clients. Elles étaient assises, leurs robes pailletées cachées sous de vastes fichus de laine. Jamais la ressemblance avec un morne bétail ne m'avait paru aussi rigoureusement identique. Cependant, quelques matelots débarqués la veille d'un steamer de San Francisco qui ravitaille toute la côte, depuis l'archipel de la Reine Charlotte jusqu'à Saint-Paul, l'île des phoques, s'en donnait à cœur joie. Les chers garçons s'excitaient du rire et de la voix et menaient grand bruit pour prouver qu'ils étaient heureux. Je dois rendre grâce à l'un d'eux qui avait renouvelé ma provision de mixture. Je n'avais pas fumé de bon tabac depuis des mois et j'étais là, ne pensant à rien, il faut le dire, savourant l'herbe à Nicole, dont la fumée faisait des ronds bleuâtres qui allaient en s'amincissant. Le tableau est très net dans ma mémoire. Je suis là, l'orchestre fait rage, les pieds des danseurs frappent en cadence le parquet, les rires fusent, celui des femmes aigre, celui des hommes, gras, avec sur tout cela la voix enrouée de l'hôte qui excite son public à la consommation. Je devine plutôt que je sens un frôlement. C'est mon ami, Hong Cheng-tsi, que j'ai connu dans la Chinatown de San Francisco. Mon ami Hong Cheng-tsi est un Chinois qui a su résister à tous les décrets et prohibitions du gouvernement américain, qui, pour se débarrasser de la concurrence des jaunes, a expulsé tout simplement les fils de la céleste République. Comment, à la suite de quelle compromission avec le shérif, Hong est-il resté? Je n'entreprendrai pas de vous le conter. Ce que je sais, c'est que les autres sont partis, lui est là. C'est un vieillard alerte, vif, fluet. S'il porte des lunettes d'or, cette question, parbleu comme tous les Chinois cossus, et vous pouvez m'en croire, Hong Cheng-tsi est un Chinois cossu. Ce qu'il vend, je vous avoue que je n'en sais rien, mais je vous affirme que Hong est un commerçant considéré, même des Yankees. Si vous me pressez davantage, je vous dirai que je le soupçonne de se livrer à l'usure et au trafic de la drogue. Je vous vois rire de la drogue? S'il y a un Chinois, il doit y avoir de la drogue, évidemment. Hong Cheng-tsi est tout près de moi. Sa voix aigrelette murmure. Ça ne vous intéresse pas? Pas la folie. Je vois ça. Il ne faut pas rester ici. Où aller pour être plus mal? Chez moi, si vous voulez. Oh, alors? Hong glisse sur le parquet, c'est sa façon de marcher. Je le suis à trois pas. La porte ouverte, la pluie nous gifle le visage. Le fils du ciel, philosophe, relève le col de son paletot. Moi, j'ai ma veste en peau de renne, mais je m'ougris d'un étang, comme si je n'avais pas l'habitude. Je dois vous avertir, puisque j'ai oublié de le faire, qu'il pleut à Sitka 285 jours. Je dis bien, vous n'avez pas la berlue. 285 jours par an. Les statistiques sont là. Vous n'allez pas nier les statistiques. Dire que plus au nord, on aperçoit la cime d'une montagne, qu'on a appelée Fairweather, le beau temps. Les explorateurs ont certainement voulu se payer notre dette. Il pleut à torrents. Hong Cheng-tsi sautille. J'enfonce mes lourdes bottes dans la boue liquide. Je jure tous les démons de l'enfer. Hong chemine maintenant près de moi. Dans une ornière, je perds pied. D'une poigne qu'on n'aurait pas soupçonnée chez un homme de son âge, Hong Cheng-tsi me remet debout. Du cône du Vestoria sortent des jets de flammes. Le spectacle du volcan serait pittoresque si on avait le temps, ou plutôt si le temps était plus agréable. Je continue à pester. Pourquoi diable suis-je allé écouter ce vieux fou? N'étais-je pas heureux dans le bar? J'avais chaud, j'avais une pipe. Ah, les hommes ne sont jamais satisfaits de leur sort. C'est ici, me fait mon ami. Ma foi, la maison paraît confortable et de bon accueil. Ma physionomie s'éclaire. Je deviens moins maussade. Entrez. Le vieillard s'efface et je pénètre dans sa demeure. La porte soigneusement refermée, deux serviteurs chinois se précipitent. Hong Cheng-tsi donne des ordres dans sa langue natale, ce dont il s'excuse auprès de moi. Les serviteurs font diligence. L'électricité brille, doucement voilée par des lanternes multicolores. Maintenant, ils sont là. L'un d'eux, avec adresse, enlève mes bottes boueuses. L'autre a pris ma veste de cuir et m'a passé une robe aux manches larges et souples. Il n'y a que les Chinois pour savoir s'habiller sans gêne aucune. Je ris de me voir ainsi attifée. Cela doit être drôle, en effet, car Hong Cheng-tsi plisse ses yeux bridés, ce qui est sa façon de sourire. Les serviteurs ont disparu. Hong me convie à prendre place auprès de lui sur des coussins aux soies vives. Il frappe dans ses mains. Une poupée chinoise est là. Par où est-elle entrée? Mystère. Du thé et des pipes. C'est ce que le maître a dû commander, car la poupée est sortie et déjà revenue, apportant ses choses. La petite flamme crépite. La poupée est restée. Elle est assise à croupetons. Elle a l'air vraiment mécanique. D'une main experte, elle prépare la boule, la grille à la courte flamme. Elle tend la première pipe. Hong, avec politesse, renouvelle ses excuses. Du thé, il n'a jamais d'alcool. De l'opium, il ne m'en offre pas. Il me juge probablement indigne de pénétrer les arcanes de la sacrée drogue. Au fond, je préfère. Je sors ma pipe de terre et, avec la permission de Hong, je fume. Depuis combien d'heures je suis là? Je ne sais. Je ne pense à rien. Je n'ai pensé à rien et Hong Chen-si a respecté ce qu'il croyait être ma rêverie. Mais j'ai fini par m'ennuyer. J'ai fumé comme la cheminée d'un steamer. J'ai la bouche pâteuse, la gorge irritée. Je tousse. Par déférence, Hong s'arrête de fumer. Il délaisse le bambou et s'informe de ma santé. Dieu qu'il est drôle, ce magot vivant, qui, dans la contrée la plus abominable du monde, est arrivé à s'évader des contingences humaines et à vivre son rêve. Mes yeux regardent ce raffiné de civilisation avec stupeur. Il perçoit toutes mes idées. C'est étonnant comme ce diable d'homme lit en moi. Ça me gêne. Je ferme les yeux. Alors, Hong Chen-si dit « Laissez vos paupières ouvertes, mon fils. Tant que Bouddha nous ordonne de vivre, ne voilons pas la beauté du regard. Tout vieillit en nous avec l'heure qui marche, notre cœur, notre corps surtout, le visage, la bouche, comme un arc qui se détend, le menton qui se creuse ou s'amollit dans la graisse, les oreilles qui se ratatinent comme de vieilles choses brûlées, les mains qui se plissent, les doigts qui se nouent. Seuls les yeux ne vieillissent jamais. » Ces choses vous paraissent toutes simples, et pourtant vous n'y aviez pas arrêté votre pensée avant. Pourquoi? Parce que vous êtes d'une race qui n'observe pas. Vos hommes, qui se croient les premiers des hommes, ne sont que des enfants. Vos savants en sont à la première lettre du livre de science. Vos lettrés, des gâcheurs de copies, qui manie le roseau d'une main inexperte. Vos artistes, quels monuments ont-ils élevés qui soient durables? Votre Vénus de Milo est une robuste femelle, et votre Parthénon ne vaut pas un des piliers d'Angkor. Vous êtes habile dans l'art des duperies. Pour une parole chinoise, vous avez 10 actes, paraphés par les scribes, et la parole chinoise est cependant la plus certaine. Vous êtes un peuple puéril. Chacun sait que l'enfance a de mauvais penchants. Nous avons eu le tort de vous montrer l'art de faire du bruit avec de la poudre. Comme des garnements, vous vous en êtes servi pour vous entretuer. Du reste, tout ce que Bouddha vous inspira pour être heureux, vous l'avez détourné de sa source pour le diriger vers la mort. Vous portez en vous le germe de toutes les destructions. Enfants, qui ne seraient jamais des hommes. Il parle, et sa voix fluette coupe avec la dureté et le tranchant de l'acier. Une fumée monte du creuset en bronze. La poupée est toujours accroupie, hiératique, le visage fermé. Et mon regard s'arrête sur un petit groupe de porcelaine. Un groupe bizarre que je ne distingue pas très bien. Hong Chen-si devine ma préoccupation. Il donne un ordre, la poupée me tend la statuette. Ce sont trois singes assis, l'un d'eux, celui de gauche, a ses pattes devant sa bouche, celui du milieu les a devant les yeux, celui de droite ferme de ses poings minuscules ses oreilles. Cela vous intrigue? Sachez simplement que ceci est le secret du bonheur de notre race. Ce groupe représente à nos yeux la suprême sagesse. Ne pas parler, ne pas y voir, ne pas entendre. La poupée chinoise a pris dans mes doigts le groupe de porcelaine fragile et l'a remis en place. Les petites bêtes sont là-haut, faisant leurs gestes immuables et consacrés. Celui qui n'entend pas et celui qui ne parle pas ont l'air de me regarder d'une façon impertinente. La suprême sagesse? Allons donc. Et je cherche en moi l'argument qui réfutera les témoignages que mon ami Yang Chen-si ne va pas manquer de me servir à l'appui de sa thèse. Je ne trouve rien. Et mon hôte a repris sa fumerie silencieuse. À la 60e pipe, comprenant ma pensée et y répondant, Hong Chen-si soulève péniblement sa tête et me dit « La preuve que nous possédons la suprême sagesse? Un seul exemple, voulez-vous? » J'attends. Et Hong Chen-si ajoute placidement « La preuve, c'est que nous avions découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Seulement, on s'était bien gardé de le dire. » Et la tête de Hong Chen-si retombe, faisant une tache blanche sur la soie vive des coussins. Chapitre 4. Les pourquoi de Kotak, Eskimo Inuit. Avoue que tu habites un drôle de pays. Tu te prétends un homme libre. Les hommes blancs sont immodestes et se croient toujours les premiers des hommes. Cependant, cette chose-ci, il ne faut pas la faire. Cette chose-là non plus. Que te reste-t-il? Rien. Tu compliques à plaisir ton existence. Pourquoi? Vous avez des shérifs, des policemen. Pourquoi? Le raisonnement des êtres primitifs est pareil à celui des enfants. Sa logique est impitoyable. Et je dois reconnaître que j'étais fort embarrassée de répondre à mon ami Kotak, qui me posait ses interrogations tout en entaillant avec un couteau une défense de morse. Ceci se passait chez les Esquimaux Inuits, campés à l'extrême pointe que l'Amérique enfonce dans l'océan glacial et que les géographes ont dénommé Point Barrow. Autour de nous, hérissant le sol, gisaient des carcasses de baleines qui avaient une vague ressemblance avec des cales de cargo en construction. C'est là que les indigènes arriment leurs canots. J'affûte la pointe d'un harpon et affecte d'être absorbé par l'unique souci de mon travail, afin de ne pas avoir à répondre. Mais Kotak est tenace. Je voudrais bien le connaître, ton pays. Si j'en juge par ce que j'ai vu à Dawson. Je l'interromps brusquement. Tu connais Dawson, toi? J'ai remonté le Yukon parfaitement, avec la face blanche qui vendait des prières. Et si ton pays ressemble à Dawson, je ne te fais pas mon compliment. Il y a plus de décrets et de règlements affichés dans l'office du shérif que jamais Tunia, l'esprit qui vit dans la terre, dans l'eau et dans le ciel, n'en est dicta pour le bonheur des hommes. Pourquoi travailler tout le jour aux rudes tranchées de la mine pour disperser la pierre jaune si péniblement acquise en quelques instants sur un coup de dé? Pourquoi? Pourquoi boire quand on n'a plus soif? Dis. C'est étonnant ce que l'affûtage de ma pointe d'acier m'absorbe de plus en plus. Mais Kotak continue. L'homme blanc qui vendait des prières me grondait lorsqu'il me voyait polir mon bâton d'ivoire qui sert à éloigner les maléfices de Kiyolia, l'esprit de l'aurore boréale. En revanche, il voulait que j'embrasse le double bâton de bois sur lequel est attachée la face pâle suppliciée. Pourquoi? Tu m'agaces, Kotak. Ne te fâche pas. Et dis-moi, pourquoi enfermez-vous les petits-enfants dont l'esprit a pris les parents dans des prisons au lieu de les confier, comme cela se fait chez nous, aux plus riches familles? Pourquoi vous battez-vous pour déplacer la pierre qui borne votre domaine? Toute la terre est à nous, la mer aussi, tout appartient à chacun, sauf le kayak qui est nôtre, puisque nous l'avons creusé de nos mains. Les femmes de Dawson dansent, boivent des choses fortes et fument le tabac. Vous les méprisez. Nos femmes préparent nos armes. Elles ont les mêmes droits que nous. Aucune grande chasse n'est décidée sans elles. Elles nous accompagnent dans nos aventures. Où est ta femme à toi? Cette question précise me laisse bouche close. J'avoue que je n'avais pas prévu le cas où l'on me demanderait pourquoi je n'ai pas amené de femme voir ce qui se passait à Point Barrow par 39 degrés de froid aux environs de l'année 1916. Kotak impitoyable et triomphant poursuit. Et les vieillards, qu'en faites-vous? Je surprendrais fort mon camarade si je lui disais que dans mon pays, où la compétence exige la sénilité, les vieillards occupent les premières places, défendant ungebus et rostro les prébendes acquises, que ce sont eux qui président aux destinées de l'État et donnent le ton à la politique, ou plus simplement à la littérature. Je me garde bien de dire ces choses qui mettraient en déroute l'esprit simple de Kotak, esquimau inuit, vivant aux dernières contrées habitables du monde. Kotak ajoute froidement, « Chez nous, les vieillards, on les mange. » Cette fois, c'en est trop. J'interviens et le rudoie. J'essaye de lui faire comprendre toute l'horreur de sa conduite. Mais Kotak n'est pas ému pour si peu. Il m'explique. Aux bonnes pêches, aux chasses heureuses, succèdent les périodes de famine. On supprime alors les bouches inutiles. Ce sont les vieux eux-mêmes qui demandent à mourir. Nous ne sommes pas des barbares. Nous leur évitons de voir la mort en face. On les empoisonne un jour sans qu'ils s'en doutent. Puis on leur tranche la gorge et on les donne en pâture à nos chiens. À vos chiens? Bien sûr. Et puis les chiens, c'est nous qui les mangeons. Ce jour-là, je ne poursuivis pas l'entretien plus avant. Chapitre 5. La cité des phoques. Entre le 171e et le 169e degré de longitude, à l'ouest de Greenwich, il est une île qui, sur la carte, a l'air d'une poule s'enfuyant déplumée. C'est Saint-Paul, l'île des phoques. Cette poule a trois poussins. Saint-Georges, au sud-est, l'île des Morses, à l'est, et l'île des Loutres au sud-ouest. Toutes quatre sont connues des navigateurs et des géographes sous le nom des îles Pribilof, que les Esquimaux Aléoutes nomment plus simplement Attic. Saint-Paul, la poule déplumée, est une île rocheuse, parsemée de cônes et de cratères. Il est fort probable qu'elle serait restée inconnue s'il n'avait pris un jour la fantaisie à messieurs phoques de la choisir comme domaine. Hélas, Rudyard Kipling nous a conté avec humour la belle histoire du phoque blanc, histoire qui lui a été rapportée, dit-il, par Limmershin, Le roi te l'a dit vert, et Kipling nous a prouvé que là où il y avait des phoques, des hommes surgissaient, habiles à les traquer. Il est vrai que Kotick, le phoque blanc, découvre à la fin de l'aventure la terre bénie où les chasseurs ne viennent jamais. Heureux Kotick. Mais je n'ose croire à tant de bonheur pour messieurs phoques. Et de mon temps, tous n'avaient pas abandonné les rivages de l'île Saint-Paul pour s'en aller chercher fortune dans les idéales prairies de Sico. Ils étaient là par milliers, couvrant la grève. Après M. de Buffon, le naturaliste aux manchettes de dentelle, ou l'honorable M. Cuvier, après le grand poète anglais, à qui le livre de la mer est aussi familier que le livre de la jungle, rechanterai-je les héroïques combats des phoques mâles pour la possession d'un terrain de 30 mètres carrés et les batailles homériques pour, comment dirais-je, pour l'usage personnel des 8 ou 15 dames phoques élues de leur cœur. Jamais la loi de la force ne s'est affirmée dans la nature avec autant de précision. Depuis que les messieurs phoques évoluent dans l'empire des mers, c'est à date fixe la même volonté de vaincre. C'est au premier jour de juin que, précédés par le vieux bulle au pelage griffaire, ils arrivent. On les voit s'avancer, le mufle large, hors de l'eau, fortement moustachu. Ils donnent l'assaut au rivage. Comme leurs pattes postérieures sont dirigées en arrière, ils ne peuvent se soulever. Leur marche est une succession de sauts où les muscles du tronc jouent le principal rôle. Cédant autant que possible des pattes de devant, ils cherchent la meilleure place. Pour qu'une place soit bonne, il faut qu'elle réunisse la triple condition d'être rapprochée du rivage, abritée du vent, exposée au soleil. Hélas, la place n'est pas au premier occupant, mais bien à celui qui sait la faire respecter. Mordant, griffant, écrasant leur adversaire sous leur poids, les forts assurent leur conquête. Et le nombre des cicatrices qui couturent certaines peaux disent suffisamment les escarmouches livrées. Lorsque la maison est en ordre, il n'y a plus qu'à attendre l'hôtesse. Celle-ci arrive quelques jours après. La cité des phoques a un gardien vigilant qui, au perché, signale l'approche du danger ou les événements mémorables. L'arrivée de Mesdames Phoques est un événement mémorable. Par un cri guttural qui tient du mugissement et du soufflet de l'orgue, le guetteur signale que ces dames sont en vue. Aussitôt, les bulles prennent la mer, faisant leurs plus beaux plongeons, ébauchant leurs plus savants ébats nautiques, beuglant, meuglant, ils virent, chavirent, reviennent à l'air, crachant l'eau en soufflant. Ils font pour elles mille grâces et mille tours. C'est un bruyant cortège nuptial qui se dirige vers la grève où se choisissent les épouses. Quelques-uns, très gourmands, se constituent un harem. On a vu certains bulles s'offrir jusqu'à 15 femelles. Mais avec le mariage, adieu la tranquillité. Monsieur Phoque est jaloux, rageur, soupçonneux. Il veille sur sa propriété avec une telle attention qu'il ne quitte plus sa roquerie. 2-3 mois, tant que durera la belle saison, le vieux mâle ne quittera plus son poste, s'abstenant de courir la mer, oubliant de manger. Si bien que venu en juin gros et gras, il part à l'automne réduit à sa plus simple expression, ayant perdu parfois jusqu'à 400 livres. Malheur au célibataire qui rôde autour du harem. Il lui en coûte, sinon la vie, du moins une belle raclée, et le jeune présomptueux revient, clopin-clopant à l'emplacement qui lui est réservé. N'ayant pas su vaincre, les faibles, les moins bien armés pour la lutte, sont réduits au célibat. Ils sont refoulés par leurs congénères, loin dans l'intérieur des terres, en des endroits mal abrités où le soleil n'arrive pas, où les vents froids du nord soufflent en tempête. Ne produisant pas, ne reproduisant pas surtout, ce sont eux qui sont voués à la mort, car les règlements édictés par les hommes sont impitoyables, et les célibataires sont seuls frappés et détruits. Les faiseurs de statistiques affirment que plus de 3 millions de phoques tombent assommés tous les ans sous la matraque des chasseurs. Pauvres bachelors, quelle leçon de morale les phoques donnent aux hommes. Mais laissons là ces considérations et revenons à mesdames phoques, lesquelles ont assisté impassibles aux batailles de leur maître et seigneur. Peu après son arrivée, Madame Phoque met bas, un seul petit généralement, qui vient au monde couvert d'un duvet laineux. Il y a des centaines d'espèces. Messieurs les zoologistes vous diront en latin leur nom, genre, famille, succès d'année, etc. Baby Phoque est un déluré qui prend la mer quelques heures après sa naissance. Mais ce sont des précoces, pareils à ces bouts d'hommes qui jouent du violon à 3 ans. Chez les gens raisonnables, Phoquelet attend d'avoir perdu son pelage laineux, ce qui prend bien une quinzaine. Tous les babies phoques déclarent que ce n'est pas un jour de noces pour eux, le jour où ils perdent leur bourg. Maman phoque survient et traîne par la force, yes, gentlemen, par la force, leur progéniture dans les flots. Bêlement, soupir, rien n'y fait. Maman est impitoyable. Allô, allô, et flac, elle vous jette son petit qui barbote dans l'eau salée. Si l'aventure tourne mal, Madame Phoque, d'un coup de queue, ramène l'imprudent au rivage. Mais pour peu qu'il soit intelligent, Phoquelet se débrouille et en peu de temps devient un nageur émérite. Dès lors, il a un nouveau terrain de jeu où il peut batifoler avec les camarades. Dans l'île Saint-Paul, la cité des phoques, il y a des quartiers, des places, des rues, où chacun va à ses petites affaires et où chacun jouit de la plus stricte liberté. Liberté selon la formule la mieux conçue et qui consiste à faire tout ce qui vous plaît à la condition de ne pas gêner son voisin. Mais là, des animaux commandent et non des hommes. Et quand la saison est finie, lorsque les premières brumes d'automne enveloppent les hautes falaises de Saint-Georges et les cônes volcaniques de Saint-Paul, messieurs phoques, suivis de mesdames phoques et des babies phoquelets, se mettent en route vers les mers du Sud. Des milliers de célibataires, les bachelors, comme disent les marins anglais, qui les années précédentes évoluaient libres dans la mer libre, ne reviendront pas. Ils ne pourchasseront plus le flétan et le saumon. Ils ne joueront plus sur la crête des vagues en renaclant et soufflant. Ils ne se laisseront plus porter les griffes ouvertes par les courants. Hélas, leurs dépouilles sèchent depuis des semaines déjà sur les claies des abattoirs. Leur peau, tondue au rasoir, débarrassée des poils raides et couchés, ne garde que la bourre brune, qui, entre les mains du faiseur de Londres ou de Paris, deviendra, pour les épaules de nos belles ladies, de la loutre marine. Pauvre bachelor, dépouillé, ta chair, qui est loin d'être savoureuse, a fait les délices de quelques-uns de mes amis aléoutes ou inuits, et ta graisse bouillie, fondue, a été échangée aux trafiquants contre quelques dollars, ou plus souvent, quelques gallons de whisky. Tout ce qui vient de toi, le plus inoffensif, le plus sage peut-être de tous les animaux, sert au trafic. Jusqu'à des dents, que pour 10 cents la pièce, on peut se procurer dans les shops de Seattle et de Vancouver. Après avoir couru le Pacifique de l'île Juan Fernandez à l'archipel de Pribilof, pour finir en breloque, sur le ventre tendu d'un bourgeois satisfait. Quelle triste destinée. Vrai, ce sont bien là inventions des hommes.